et voici le journal d'Amélie Perrier. Bonjour Amélie.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Une bonne partie des dirigeants de la planète réunis ce matin à Jérusalem pour rendre un dernier hommage à Shimon Peres. L'ancien président israélien est enterré au mont Herzl. Nous irons sur place dans un instant.
Un hommage sans les pays arabes, mis à part le président palestinien Mahmoud Abbas qui sera à présent. Les Palestiniens gardent toutefois une image contrastée de Shimon Peres.
Un an d'intervention militaire russe aujourd'hui en Syrie. Moscou plus impliqué que jamais aux côtés du régime de Bachar al-Assad. Nous nous demanderons quels sont les objectifs des Russes.
Son projet de loi a été retoqué. La ministre des Droits des Femmes persiste et signe. Laurence Rossignol annonce sur France Culture qu'elle dépose un nouveau texte pour élargir le délit d'entrave à l'IVG au site internet.
Et les régions gagnent un peu d'autonomie. Elles ont obtenu de Manuel Valls de ne plus dépendre uniquement financièrement de la dotation de l'État. Elles vont récupérer désormais une partie de la TVA. Mais commençons ce journal par des adieux intersidéraux et un suicide en grande pompe pour Rosetta. La sonde européenne va s'écraser aujourd'hui volontairement sur la comète Tchoury, l'épilogue d'une mission spatiale de 12 ans pour tenter de percer les mystères de la création du système solaire. En se rapprochant une dernière fois de Tchoury, Rosetta va pouvoir prendre des ultimes photos et transmettre de précieuses informations aux scientifiques. Explication avec Sophie Bécherel.
Fin de partie en douceur pour Rosetta, dont le plongeon final n'a rien d'improvisé. Le baiser d'adieu a été commandé à minuit la nuit dernière avec une toute dernière manœuvre pour l'envoyer en ligne droite vers le point d'impact. Une zone baptisée Maat est grande comme 4 terrains de football. Désormais, tout est automatique et géré par l'ordinateur de bord. La chute libre a lieu en douceur en raison de la faible gravité de la comète Tchoury et de la masse de la sonde, l'équivalent d'une petite voiture. À 1h cet après-midi, au moment du choc, la vitesse sera de 3 km par heure. Pas trop violent en somme, mais peut-être suffisamment pour réduire en miettes les panneaux solaires. Peu importe, car tout au long de la descente, de nouvelles informations, des images notamment, seront transmises en direct à la Terre par Rosetta. Le site de Maat a été choisi pour son intérêt scientifique. Il est truffé de trous d'effondrement suite au dégazage de la comète. L'idéal serait de les survoler pour voir à quoi ressemble le fond. Il n'est pas exclu que Rosetta tombe dedans.
Sophie Bécherel au Centre européen d'opérations spatiales à Darmstadt, c'est en Allemagne. Des adieux, cette fois beaucoup plus protocolaire. Une centaine de dirigeants de la planète assisteront ce matin aux funérailles de Shimon Peres sur le mont Herzl à Jérusalem. Hommage à l'ancien président israélien, acteur clé des accords d'Oslo avec les Palestiniens qui lui valurent le prix Nobel de la paix en 1994. Antoine Marette, vous couvrez la cérémonie pour France Culture. Bonjour.
Bonjour Amélie.
On s'apprête à assister à un événement assez exceptionnel par la liste des invités ce matin.
Effectivement, et la cérémonie devrait commencer d'ici quelques minutes en présence de nombreux chefs d'État et anciens chefs d'État. La sécurité est très présente aujourd'hui, vous l'imaginez, c'est pour ça que je vous appelle d'un téléphone portable, car les liaisons satellites ont été brouillées par les services israéliens. Parmi eux, donc parmi ces chefs d'État et anciens, François Hollande et Nicolas Sarkozy, qui ont fait le voyage ensemble. Barack Obama a tenu également à venir rendre hommage à celui qui symbolise pour beaucoup la paix. Il est accompagné de Bill Clinton sans sa femme, qui est en pleine campagne électorale. On se souviendra de Shimon Peres comme l'un des artisans de l'accord d'Oslo en 93, accord qui jetait les bases d'une autonomie palestinienne et offrait un espoir de règlement du conflit, ce qui lui avait valu un an plus tard de recevoir avec Yasser Arafat et Yitzhak Rabin le prix Nobel de la paix. L'émotion du peuple israélien est grande. Shimon Peres était le dernier survivant de ce que l'on a appelé la génération des pères fondateurs de l'État d'Israël. Le pays est en deuil au-delà des clivages politiques, puisque Peres était un homme de gauche, mais qui avait participé à des coalitions gouvernementales avec la droite, un pragmatisme qui lui a permis de multiplier les portefeuilles ministériels et de devenir à 3 reprises Premier ministre, puis chef de l'État. Un homme aimé dans son pays, mais critiqué à l'extérieur, dans le monde arabe. Shimon Peres avait cautionné les premières colonies juives de la Cisjordanie occupée. Il était Premier ministre quand l'aviation israélienne a bombardé le village libanais de Kana en avril 96, tuant 106 civils. Et ce matin, un seul haut responsable du monde arabe a fait le déplacement, le président palestinien Mahmoud Abbas.
Antoine Marette, merci beaucoup en direct du Mont Herzl à Jérusalem pour France Culture. Alors on l'entendait à l'instant, si beaucoup saluent un homme de paix, les pays arabes ne participeront pas aujourd'hui au concert de louanges. Les Palestiniens, eux, voient en Shimon Peres une figure contrastée. C'est ce qu'a pu constater également Christian Chéneau dans les territoires.
Les funérailles de Shimon Peres suscitent l'indifférence chez les Palestiniens de la vieille ville de Jérusalem. Le fiasco des accords d'Oslo résonne ici douloureusement. Dans sa librairie de la rue Salah al-Din, Ahmad ne versera pas une larme pour l'ancien président israélien.
Pour moi, Shimon Peres était à la fois un homme de guerre et un homme de paix. Nous, les Palestiniens, nous nous souvenons de lui comme ministre de la Défense. Ses ordres ont tué tellement de Palestiniens et jeté tellement d'autres en prison.
Devant les échoppes, des soldats israéliens surveillent les allées et venues, le doigt sur la gâchette. Hadj Ibrahim, un vieux commerçant du quartier, peste contre l'occupation israélienne.
Il n'y a pas d'espoir. Le seul espoir serait qu'on récupère nos droits. Qu'on ne nous confisque plus notre terre par la force, qu'on ne tire plus sur les gens dans la rue. Jérusalem est vide. Il y a des checkpoints partout. Il n'y a personne. Regardez, c'est vide.
Mahmoud Abbas, le chef de l'autorité palestinienne, sera le seul représentant arabe de haut rang présent aux funérailles de Shimon Peres. Abdallah II de Jordanie et le président égyptien Sisi ont préféré rester à la maison, sans doute pour ne pas heurter leurs opinions publiques très remontées contre Israël.
Le reportage de Christian Chenot en Palestine. Une région toujours sous tension. Aujourd'hui, c'est sur la Syrie que pèsent les plus vives inquiétudes. Les États-Unis ont menacé hier soir la Russie de rompre toute coopération diplomatique si les bombardements ne prenaient pas fin au-dessus de la ville d'Alep. Moscou, alliée sur le terrain du régime de Bachar al-Assad, n'a aucune intention d'interrompre ses opérations militaires. Opérations menée depuis un an maintenant. Un an et une détermination toujours plus forte. Mais pour quel objectif ? Des éléments de réponse à Moscou avec Jean-Didier Revoin.
En une année d'opération, la Russie a annoncé avoir neutralisé des milliers de terroristes, détruit des centaines de sites d'entraînement de l'État islamique, de dépôts d'armes et de munitions, ainsi que les routes qui permettaient à Daesh d'exporter du pétrole. Ces pertes restent limitées, une vingtaine de soldats seraient morts, alors que deux hélicoptères et un avion de chasse ont été abattus. Pourtant, les chaînes de télévision russes n'ont jamais ou presque diffusé d'images des destructions provoquées par les bombardements. Elles profitent de la présence de leurs forces sur le terrain pour se joindre aux soldats syriens et montrer l'héroïsme avec lequel ils combattent les djihadistes. Car l'objectif officiel de cette campagne antiterroriste, comme on l'appelle en Russie, n'a pas changé. Il s'agit toujours de détruire l'État islamique pour éviter que des combattants islamistes du Nord-Caucase, qui combattent en Syrie, ne rentrent en Russie pour y commettre des attentats. Plusieurs fois par mois, les services russes mènent des opérations dans les républiques du Caucase et annoncent le démantèlement de cellules terroristes. Au plan géopolitique, Moscou peut donc se profiler comme un acteur incontournable de la résolution des problèmes en Syrie, mais aussi dans l'ensemble du Moyen-Orient, faire la promotion de ses dernières armes dont les ventes marchent très bien et opérer ainsi un retour remarqué sur la scène internationale. La Russie impute en outre la reprise des combats aux Américains au motif qu'ils ne différencient pas suffisamment l'opposition modérée des terroristes, jouant l'indignation face aux accusations occidentales pour mieux répéter que la Russie reste prête à coopérer avec Washington en Syrie.
Et pour lutter contre l'État islamique, la France elle aussi lance ses forces dans la bataille. On apprend ce matin que le porte-avions Charles de Gaulle entre en action. Des rafales français vont commencer à frapper les positions des djihadistes de Daesh en Irak. Il s'agit des prémices de la bataille de Mossoul, la grande offensive attendue depuis des semaines pour reprendre la deuxième ville d'Irak aux mains de l'EI depuis 2 ans. On ne sait pas encore ce qui a provoqué l'accident de train aux États-Unis près de New York, mais déjà des questions se posent sur l'état du réseau ferroviaire américain, des infrastructures privées d'investissement ces dernières années. Hier, un train de banlieue a déraillé et fini sa course dans le hall de la gare très fréquentée de Hoboken. Le dernier bilan fait état d'un mort et de 114 blessés.
8h08, la suite du journal sur France Culture, Amélie Perrier, avec une annonce de Laurence Rossignol, la ministre des Droits des Femmes, hier soir sur l'antenne de France Culture.
Oui, Laurence Rossignol va déposer un nouveau texte à l'Assemblée nationale pour élargir le délit d'entrave à l'IVG au site internet. Le Sénat a rejeté hier un premier amendement du gouvernement en ce sens. Le texte prévoyait de sanctionner certains sites internet hostiles à l'avortement qui se présentaient comme de simples sites d'information. Une propagande mensongère que compte bien continuer à combattre la ministre. On écoute Laurence Rossignol.
Il existe déjà dans le droit pénal le délit d'entrave à l'IVG. Ce délit d'entrave, il avait été créé en 1993 lorsque les militants anti-IVG avaient pour habitude de s'enchaîner aux portes des cliniques ou des services hospitaliers. Et le délit d'entrave a mis fin d'ailleurs à cette pratique. Ensuite, ces militants se sont déplacés, ils sont rentrés dans les services hospitaliers et ils ont été faire pression soit sur les personnes, soit sur les femmes. Nous avons à ce moment-là élargi le délit d'entrave en 2014. Maintenant, ils se sont déplacés sur Internet. Là où ils vont, nous les suivons et nous étendons le délit d'entrave aux faux sites d'information sur l'IVG et à ces sites qui ont pour vocation de faire pression sur les femmes, de les dissuader de recourir à l'IVG.
Mais donc l'objectif, c'est de fermer ces sites.
Là, l'objectif, c'est qu'ils annoncent qui ils sont, qu'ils s'assument comme site militant anti-IVG, qu'ils ne se dissimulent pas en site d'information sur l'IVG.
La ministre des Droits des Femmes, Laurence Rossignol, invitée hier de Stanislas Vazak sur France Culture. La colère des gardiens de prison. Plusieurs centres de détention ont été bloqués hier par les personnels pénitentiaires. À Fleury-Mérogis, Fresnes, Valence ou encore Annelin dans le Nord. Des palettes ont été incendiées devant les portes d'entrée, des parloirs et des extractions suspendues. Ils dénoncent la dégradation constante de leur sécurité après une série d'agressions. Problème, les prisons surpeuplés et les personnels en sous-effectif. L'impression de l'avoir toujours connu en travaux. Après 20 ans de désamiantage et de réaménagement, l'université de Jussieu à Paris a été inaugurée hier par le président François Hollande. Un chantier d'1,7 milliard d'euros. Elle réclamait de ne plus dépendre de la dotation de l'État. Les nouvelles grandes régions françaises ont été entendues par Manuel Valls. Le Premier ministre a annoncé hier que les super-entités pourront à l'avenir être alimentées par une fraction de la TVA. Explication avec Jean-Marc Chardon.
C'est la promesse de faire en sorte que les régions ne soient plus à l'étroit dans leur gestion. Avec l'avènement des grandes régions, elles se trouvaient bridées par une quasi-tutelle financière, celle de l'État comptant chichement ses dotations dans le cadre du programme pluriannuel d'économie. Situation paradoxale de ces régions agrandies. Ainsi, la région Grand Est équivaut 2 fois la surface de la Belgique, agrandie, étoffée en reprenant les compétences économiques des départements, mais pas renforcée budgétairement. Et ainsi, obligée d'œuvrer dans l'ombre de l'État, de composer avec ses représentants sans bénéficier des effets d'une vraie décentralisation. Le nouveau schéma devrait leur assurer plus d'amplitude, leur permettre de clarifier leurs choix, à ceci près qu'il faudra établir des règles suffisamment équitables entre des régions à développement inégal. Ce qui passera par une période intermédiaire où les élus entendent bien se faire entendre. Le dispositif s'annonce complexe avec dans un premier temps un fonds d'au moins 450 millions destiné à soutenir l'action économique l'année prochaine. Ensuite viendra l'arbitrage autour de la part de TVA qui reviendra effectivement aux régions. L'affaire de 4,4 milliards d'après l'Association des régions de France, encore faudra-t-il parvenir à un accord avec l'État lui-même à l'affût de toutes les économies possibles pour boucler son propre budget.
L'automobile en vedette, ouverture hier du mondial porte de Versailles à Paris, rendez-vous incontournable d'un secteur en plein rebond. Après la crise profonde entre 2008 et 2013, les immatriculations des voitures neuves ont augmenté de plus de 6% cette année en France et de plus 8% dans l'Union européenne. Un secteur en pleine mutation, à en croire les nouveautés et les prototypes présentés cette année. Place donc à la voiture électrique, tous les constructeurs s'y mettent. Autre bonne nouvelle pour l'environnement, l'accord de Paris, né de la COP21 l'hiver dernier, est sur le point d'être ratifié par l'Europe. Les 28 ministres de l'environnement européens ont rendez-vous aujourd'hui à Bruxelles pour donner leur feu vert. Ainsi, le Parlement pourra le voter mardi prochain. Toutefois, les experts commencent à se demander si l'objectif des 2 degrés n'est pas déjà caduc. Si l'on s'en tient aux engagements de la COP21, le réchauffement de la planète de 2 degrés pourrait être atteint plus tôt que prévu dès 2050. Et dans ce contexte, nous vous emmenons aujourd'hui au Malawi, au sud-est du continent africain. Car ce petit pays connaît le double choc du dérèglement climatique et d'un phénomène naturel, El Niño. Conséquence, la moitié de la population a besoin d'une assistance alimentaire. Bonjour Véronique Rebérotte.
Bonjour.
Vous rentrez tout juste du Malawi. Expliquez-nous d'abord ces phénomènes qui s'abattent sur le pays, à commencer par El Niño.
Alors El Niño, c'est un phénomène météorologique naturel cyclique. Il revient tous les 3 à 7 ans. El Niño provoque en fait l'augmentation de la température des eaux de surface de l'océan Pacifique et par effet de domino, ce réchauffement a des répercussions sur toute la planète en affectant la pluviométrie et les températures. Alors ça s'est traduit cette année par des vagues de chaleur et de terribles sécheresses en Afrique de l'Est et australe. El Niño était particulièrement virulent en plus cette année. Au Malawi, où je me suis donc rendu avec l'ONG CARE, on n'avait pas connu pareille sécheresse depuis 30 ans. 23 districts sur les 28 du pays brûlés par le soleil. Les récoltes de maïs ont été très mauvaises. C'est la base de l'alimentation au Malawi. Pas de récolte ou si peu. Or, ça avait déjà été le cas l'an passé à cause des inondations liées directement au réchauffement climatique qui ont ravagé le pays. 2 chocs climatiques qui s'enchaînent, se superposent, 2 années sans récolte. Le Malawi n'a plus les moyens de se nourrir. 40% de la population bénéficie depuis cet été d'une aide humanitaire d'urgence. 6,5 millions de personnes qui ont tout perdu, épuisé toutes leurs réserves dans un pays rural à 90%. Et ce n'est pas terminé puisqu'après El Niño s'annonce cet hiver la Niña, synonyme de nouvelles inondations et peut-être d'une troisième année sans récolte, une accumulation de chocs climatiques devenue insurmontable.
Alors, ce qui vous a frappé, Véronique, au Malawi, c'est de découvrir des zones devenues totalement hostiles à l'être humain.
Alors, par crainte de nouvelles inondations, près de 200 000 personnes ont été déplacées l'an passé, relogées sur les hauteurs du pays à des heures de marche de leurs champs. Elles n'habitent plus où elles cultivent, s'adaptent au réchauffement, au choc climatique. Pour les Malawites, ce serait donc cela, prendre des assurances climatiques aussi. Ça vient d'être mis en place par les Nations Unies. Certaines réponses, en tout cas, paraissent bien inadaptées, voire vaines, face à l'ampleur de chocs climatiques récurrents, assassins, pour tout dire.
Choc climatique au Malawi, un pays en état d'urgence. C'est votre magazine de la rédaction cette semaine, Véronique Rebérotte. Merci beaucoup. C'est réalisé par Annie Bro et ce sera présenté de 17h à 18h sur France Culture par Marie-Pierre Véro. On termine par le temps de ce vendredi. L'automne arrive, au moins sur la moitié nord, avec de la pluie. Au sud, ça reste ensoleillé. Les températures ce matin, elles vont de 10 à 14 degrés. Cet après-midi, on prévoit 18 à Paris, 19 degrés à Calais et à Quimper, 25 degrés à Lyon et à Bastia, 25 aussi pour Marseille et 26 à Biarritz. Guillaume Erner.